naturel. Par contre, la petite figurine des mariés est prête, hein. Il y a juste à la poser sur un bel éclair au chocolat.
Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, le gazpacho est à 2,75€ la bouteille de 1 litre si deux achetés au rayon épicerie. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand Frais,
le meilleur marché.
Au lieu de 3,29€ la bouteille si vendue seule. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. RTL.
Votre assureur Alliance présente une émission spéciale « Ça peut vous arriver » avec vous de A à Z. Des cas réels, conseils et solutions utiles pour protéger ceux qui comptent. À découvrir sur M6+.
Il est 13h.
Jusqu'à 14h,
les auditeurs ont la parole.
Éric Brunet et Céline Landreau sur RTL.
On nous dit que les Français épargnent trop et que parmi les Français, les retraités, les plus de 65 ans, épargnent vraiment beaucoup trop et que c'est mauvais pour la croissance. Cathy a fait le 32-10. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, je trouve que c'est honteux de dire ça parce que moi, j'économise pas spécialement pour moi, mais pour mes enfants et mes petits-enfants.
Vous déploierez vos arguments dans un instant. Vous n'êtes pas la seule à avoir fait le 32-10. On vous écoutera, vos arguments tout de suite à 13h. Et 50 secondes, c'est le rappel des titres avec Céline Landreau.
Et Israël prévient que le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, ne peut plus, je cite, être autorisé à continuer d'exister après qu'un hôpital a été touché, des dizaines de personnes blessées en Israël, cible de nouvelles salves de missiles iraniens. De son côté, Israël avait à nouveau frappé plusieurs sites nucléaires iraniens la nuit dernière. Au 7e jour de cette guerre entre les deux pays, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lui incite tous les Français qu'il souhaite à quitter l'Iran ou Israël par la route. Enquête en cours à Saint-Quentin dans l'Aisne pour tenter de trouver l'aliment qui a intoxiqué plusieurs enfants et provoqué la mort de l'un d'entre eux. Il avait 12 ans et est décédé lundi. Une certitude d'ores et déjà, les 7 enfants victimes de cette intoxication alimentaire n'avaient pas partagé de repas en commun. Le groupe Pernod Ricard, lui, confronté à un recul de son activité, a annoncé aujourd'hui à son personnel le lancement d'un plan de réorganisation. Un processus de consultation des représentants du personnel va être lancé sur plusieurs mois. Pernod Ricard compte quelques 18 500 collaborateurs, dont 4 000 en France.
Stop aux moustiques avec le spray répulsif anti-pique Pur Essentiel. La protection naturelle efficace 7 heures contre tous les insectes piqueurs.
La météo, Peggy Broche avec vous, et on reste au frais cet après-midi quand on peut.
Ben oui, c'est le mieux à faire parce que c'est vrai que les températures grimpent encore d'un cran. On gagne 1 à 3 degrés par endroit, 35 à Nîmes, Toulouse, Limoges, Bordeaux, 34 degrés à Nantes comme à La Rochelle et Marseille, 33 à Lyon, Tours, Rennes et au Mans, 32 à Paris comme à Montpellier et Aurillac, 31 à Toulon, Brest, Strasbourg, 30 à Mulhouse, Nice. Vous voyez qu'on est souvent au-dessus des 30 degrés, 29 à Rouen, 28 à Caen et 25 à Cherbourg. Sous un beau soleil sur tout le pays. On a juste peut-être un petit risque d'averse, voire un petit coup de tonnerre sur les Alpes du Sud en fin de journée et une petite averse possible sur le relief corse.
Merci beaucoup Peggy Broche.
Les auditeurs ont la parole.
Éric Brunet et Céline Landreau sur RTL.
Voilà, donc les Français épargnent trop, nous dit-on. C'est mauvais pour notre croissance, nous disent les experts en économie. Et parmi ces Français qui épargnent trop, il y a une catégorie qui épargne encore plus que trop, c'est les plus de 65 ans, nous dit-on, qui épargnent le plus. Voilà. Et que tout ça, donc, grève la croissance du pays. Cathy n'est pas d'accord, elle trouve même ça assez scandaleux comme vision des choses. Cathy, on vous écoute, vous êtes retraitée vous-même, hein ?
Ah oui, je suis retraitée, j'ai 70 ans, et quand j'entends ça, ça me révolte, parce que je fais vivre l'économie, je reviens de vacances, vous voyez, donc j'ai dépensé de l'argent.
Oui.
Mais je mets de l'argent de côté pour mes petits-enfants, ils n'auront pas de retraite, vous voyez ? Donc, je prévois la chose. Pour mon fils, parce que c'est pareil, dans le temps, on partait en vacances, nous, 3 semaines l'été, 1 semaine l'hiver, eux, ils ne peuvent plus.
Cathy, je peux vous poser une question qui vous agacera peut-être, mais vous dites, je mets de l'argent de côté pour mes petits-enfants. Les économistes nous expliquent que le problème, c'est qu'en épargnant autant, on gèle de l'argent, on ne fait pas tourner le pays. Pourquoi épargner pour eux pour plus tard et pas leur donner aujourd'hui ?
Oh ben je leur donne aujourd'hui, hein, quand ils vont par exemple au ski, je paye les forfaits, vous voyez, je leur donne.
Oui, oui, oui. Hein, vous financez des
ben voilà.
Vous dites, moi je pouvais partir 3 semaines en famille l'été en vacances, aujourd'hui mon fils ne peut plus
faire ça.
Plus.
Non, non, c'est impossible, c'est trop cher. Donc, il part en vacances, mais au lieu de 3 semaines, c'est 2 semaines, vous voyez. Donc il y a un souci, quoi. Il y a un petit souci dans le pouvoir d'achat.
Alors aujourd'hui, Cathy, je peux vous demander combien vous mettez de côté à peu près tous les mois ou tous les ans, j'en sais rien.
400
tous les mois.
Oui.
Ouais, 400
tous les mois. C'était ce que je payais comme loyer, vous voyez, ouais. Quand j'ai eu fini de payer ma maison.
Comme remboursement de votre prêt.
Voilà, oui, je l'ai mis de côté.
D'accord. Et cet argent, vous dites ça servira à mes enfants, à mes petits-enfants, mais est-ce que vous n'avez pas aussi quelque part dans un coin de votre tête la question de la dépendance et peut-être la maison de retraite, l'EHPAD, il va falloir si un jour...
Non, je ne veux pas aller en EHPAD, je ne veux pas aller en maison de retraite, je prendrai quelqu'un chez moi.
Ouais.
Je ne veux pas. Vous voyez, ma retraite servira à payer la personne qui restera pour s'occuper de moi.
Oui, d'accord.
Mais pas
de tout ça, non. Ok, merci Cathy, restez avec nous. Je vais prendre Josiane également, qui a fait le 32-10. Ma chère Josiane, bonjour.
Bonjour Josiane.
Bonjour.
Dans quel coin de France vous trouvez-vous, ma sœur Josiane?
Je suis dans le Cher.
Dans le Cher.
Je suis une Marseillaise qui a immigré dans le Cher.
Et est-ce qu'elle épargne, la Marseillaise qui a immigré dans le Cher?
Oui. La Marseillaise qui a immigré dans le Cher, elle épargne parce qu'elle a 74 ans, elle travaille toujours.
Oui.
Et voilà, ben, je trouve que, comme disait Cathy tout à l'heure, effectivement, on pense à nos enfants, à nos petits-enfants.
Attendez, vous travaillez toujours? Je vous avais dit, je travaille toujours.
Qu'est-ce que vous faites, Josiane?
Je suis chef de cuisine et gérante de mon propre établissement.
D'accord, vous avez un restaurant. Voilà.
Oui, un hôtel-restaurant, exactement.
Ouais.
Et il n'y a pas de... Aujourd'hui, on parle toujours des retraités qui économisent, mais on n'a pas le même train de vie que... On n'a pas eu et on n'a pas le même train de vie que les jeunes actuellement. Donc, on peut se permettre encore de mettre un peu d'argent de côté. Mais ça, ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas les moyens de finir le mois. Alors, donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein.
Ouais.
Ce n'est pas tous les retraités qui peuvent économiser.
Non, bien sûr. On est là sur des moyennes de l'INSEE qui prennent en compte... toute la population, et on dit simplement, ce sont les chiffres de l'INSEE, que chez les plus de 70 ans, le taux d'épargne atteint 25%, alors que dans l'ensemble de la population, il est de 18,8% aujourd'hui.
Tout à fait.
Et alors Josiane, pourquoi épargnez-vous, vous ?
Ben, j'épargne parce que, vous savez, au siècle dernier, les anciens finissaient leur vie avec leurs enfants, dans leur maison.
Chez les enfants, oui.
D'accord ? Les enfants. Oui. Or, maintenant, c'est plus possible, ça. Les enfants ne peuvent plus vous accueillir, d'abord parce qu'ils ont des appartements souvent plus petits, la vie, elle est compliquée, c'est pas facile. Donc, il faut que nous prévoyons notre bien-être aussi. Je veux dire, déjà, vieillir, c'est pas la panacée, quoi. Je veux dire, c'est pas extraordinaire de vieillir. Mais si, en plus, on est dépendant de nos enfants, mais c'est dramatique, quoi.
Mmh. Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous nous avez dit aussi tout à l'heure.
Oui.
On vit pas comme les jeunes, nous on fait plus attention, on est plus économe parce qu'on a été comme ça toute notre vie.
Oui.
C'est ça aussi c'est la clé pour vous ?
Un peu. Je pense que les jeunes, je ne sais pas ce qu'ils ont une façon de vivre que nous n'avions pas. C'est évident, on ne va pas être passéiste et tout le temps parler du passé. Ce n'était pas mieux avant, ce n'est pas vrai. Hein, on avait les linges à la main. On n'avait pas les tentations qu'ils ont aujourd'hui et effectivement ils sont plus appelés à dépenser que nous, quoi, voilà.
Alors Josiane, vous êtes une Marseillaise dans le département du Cher. Vous êtes vous avez passé les 70 ans. Vous êtes toujours à la tête d'un établissement de hôtel restauration, mais vous économisez. Mais je vous repose la question, pourquoi, en deux mots? C'est-à-dire, vous voyez où dans 10 ans, 12 ans, 15 ans, vous serez où? Vous ferez quoi de cet argent?
Ben, ça servira à payer ma dépendance si je suis obligée de faire appel à quelqu'un pour m'aider, si je vieillis mal, si je deviens impotente. On ne sait pas ce que l'avenir réserve quand on vieillit. Alors, payer aussi peut-être une maison de retraite plus confortable, je ne sais pas, ça peut être ça, mais ça peut... Je pense que c'est surtout dans ce sens que les personnes âgées économisent. Je pense que c'est en prévision de leur retraite, de leur probable incapacité à rester indépendant. Hein. Voilà. Le jour où je ne pourrai plus conduire, il faudra bien que quelqu'un me déplace. Il faudra bien, je sais pas. Les choses auxquelles les jeunes ne sont encore pas confrontés, et tant mieux, et merci, chacun son tour, mais bon, voilà. Moi, je pense que c'est plutôt pour se préserver un peu nous, quoi, et pas être à la charge de nos enfants.
Ça, c'est un souci qui est constant chez vous, par exemple, de ne pas faire peser financièrement votre fin de vie sur les épaules de vos enfants.
Absolument. Et puis continuer à les aider s'ils ont besoin, bien sûr, c'est tant qu'on peut le faire. Et puis les petits enfants qui arrivent, hein, et qui ont besoin aussi. Et puis voilà, pourquoi pas après tout. Puis de toute façon, c'est ce qu'on veut de notre argent. On est bien d'accord.
Ouais, alors là, jusque là, on est d'accord, Josiane.
Culpabilisation de la société et des économistes, oui. ça n'a qu'un temps. Hein. Le principe de base dans tout ça, c'est quand même la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, de l'argent qu'on a gagné à la sueur de son front. Et vous en particulier, Josiane, qui a 73-74 ans, continuez toujours à travailler. Bon, Patrice est là. Bonjour Patrice.
Bonjour Patrice.
Bonjour, bonjour.
Bon, ben vous savez quoi Patrice, on vous dit à tout de suite alors.
Ok, pub.
Bravo, bien vu.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes la minute.
Événement RTL.
Bonus track, présenté par Éric Jean-Jean.
Bonjour, c'est Éric Jean-Jean, je vous retrouve demain à partir de 20h aux côtés de...
Dr Renaud, Mr Renaud.
Émission spéciale aux côtés de Renault pour une interview exclusive. Secrets de fabrication, rencontres, souvenirs perso. Renault a décidé de garer sa mob devant RTL pour nous faire écouter des moments de son live culte à la Cigale.
Faut bien dire ce qui est, moi aussi je débloque depuis qu'elle est en cloque.
Renault en interview exclusive, ça veut dire qu'il y aura de la tendresse, de l'émotion, du sourire.
Les Mistral.
Allez, à demain, 21h sur RTL.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 Banque Populaire, première banque des PME.
À tous ceux qui ne sautent pas n'est pas français. Qui ne sautent pas n'est pas français, ouais. Toi, tu sautes pas, je te vois, hein. Allez, saute, saute. Et à tous ceux qui ne sautent pas n'est pas français, ouais. Tous ensemble, qui ne saute pas n'est pas français. Pour soutenir nos joueuses, en ce moment chez Intermarché, tentez de gagner des places de match, des cadeaux exclusifs de l'équipe de France féminine de football et même des packs high-tech.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 27 juillet, jeu avec obligation d'achat, règlement sur intermarché.com.
Cet été, partez en vacances avec votre prof d'anglais préféré. Grâce au cahier de vacances Let's Go on Holiday de Monsieur Prof, révisez l'anglais en vous amusant. Jeux, devinettes, exercices et bonus audio pour progresser sans stress. Let's Go on Holiday avec Monsieur Prof pour des vacances à l'anglaise et 100% fun. Aux éditions Larousse.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, le prix de la gamme Swensen fond chez Lidl.
Quoi ? Le lait ? Les brumes ? Les sprays ?
Mais toute la gamme Swensen, patron. En ce moment, ils font moins 50% sur le deuxième produit acheté.
Moins 50% sur le deuxième produit Swensen. Oh, mais c'est propre.
Oh oui, et nous, on est proprement mal.
Lidl est vraiment le moins cher ? Et vous le prouvez sur lidlestmoinscher.fr. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur lidl.fr.
13h, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Éric Brunet et Céline Landreau.
On parle des retraités qui épargnent beaucoup, surtout ceux à près de 65 ans. Et on a oublié de dire quelque chose qui me semble très important. C'est que quand on arrive dans la soixantaine, 60, 65, 70, on ne sait pas comment on va finir notre vie. Et quand on voit aujourd'hui le prix des EHPAD, eh ben, il est normal que l'on mette de l'argent de côté pour que nos enfants ne payent pas pour nous. Je trouve ça très important.
Sylvie nous laisse ce message. On va aller voir Victor qui est au standard et qui, je l'imagine, lui aussi reçoit des messages. Victor.
Bonjour Eric, bonjour Céline, bonjour à tous. On croule sur les messages depuis ce matin au sujet des retraites. Sylvette, sur notre application RTL, habite dans le département de l'Aisne, marre de cette ségrégation des personnes âgées. L'image donnée est celle de Nanty-Gripsou. Thierry en Charente. Depuis quelques mois, les retraités sont devenus les cibles de tous les sujets. Âge de départ à la retraite, pension et nouveaux impôts. Et puis maintenant, l'épargne. Et puis Françoise, gros épargnant ou surtout prévoyant. En ce qui me concerne, je ne veux pas que mes enfants payent pour mon EHPAD si un jour je devais en avoir besoin.
Et on rappelle le point de départ hein, de toutes ces réactions, c'est ces informations que nous donnait Martial You tout à l'heure, cette étude de l'INSEE qui nous dit que les Français n'ont jamais autant épargné que depuis la fin des années 70 et que les champions de l'épargne, ceux qui mettent le plus d'argent de côté, ce sont les retraités.
Et ça croise une autre statistique, souvenez-vous, Céline, on en avait parlé il y a quelques mois, c'est que les retraités sont la population dans laquelle on compte moins de pauvres que chez les actifs. Donc, quand on parle effectivement des retraités qui sont lorgnés aujourd'hui par la société civile et par les experts en économie, ben, c'est un peu vrai. On regarde beaucoup du côté des retraités. Patrice a fait le 32-10. Bonjour Patrice, vous êtes retraité ?
Rebonjour. Absolument pas. Je suis actif et je travaille actuellement. Et là, ce que j'entends sur les retraités, ça me frise le poil. C'est juste pas possible d'entendre ça.
Pourquoi alors ? Expliquez.
Ben, écoutez, déjà, les retraités actuels sont des gens qui ont travaillé dans des conditions très très dures en général. Hein, sur une époque, moi j'ai 56 ans, on travaillait dur. On travaillait le 39 heures, 35 heures par semaine, ça n'existait pas. Les gens ont travaillé dur, ont épargné, on avait des conditions de travail qui étaient quand même nettement plus difficiles qu'aujourd'hui.
Vous pouvez aussi modérer votre propos en disant qu'il y avait, c'était, il y a eu les 30 glorieuses, il y a eu aussi le plein emploi, il y a eu
aussi
le plein emploi, voilà.
On peut toujours regarder le bon côté.
Oui, c'est vrai, mais j'insiste bien parce que j'en parle souvent avec mon père de ça. Il me dit que c'était l'époque aussi où n'importe quel salarié qui avait un CDI pouvait faire construire un pavillon, quoi. C'est la France des pavillons, la France des années 70-80.
Oui, on est d'accord. N'importe quel. Regardez le prix aujourd'hui d'un pavillon.
Bah oui.
On va parler en francs. 80 000 francs, vous aviez un pavillon. Mmh. Aujourd'hui, pour avoir un pavillon, c'est combien d'euros ? C'est 200 000 euros.
Ouais.
On multiplie ça par 7.
Non, c'est pour vous dire que ça contredit un peu ce que vous dites, puisque je suis en train de vous dire qu'il y a eu aussi, dans les années 80, il y a eu aussi des actifs qui avaient une vie peut-être, à certains égards, plus facile que celle d'aujourd'hui.
Ok, plus facile. Dans quel sens ? En temps de travail ?
Non, pas en temps de travail, vous avez raison, pas en temps de travail, mais
attention,
je pouvais être un primo-accédant plus facilement,
Voilà, en rémunération, on est d'accord. Mais
disons qu'on avait le sentiment que l'ascenseur social fonctionnait peut-être mieux et qu'il était plus facile pour cette génération d'avoir un niveau de vie supérieur à celui de ses propres parents, ce qui n'est pas une perspective évidente pour les jeunes et les actifs d'aujourd'hui.
Ouais.
D'aujourd'hui, c'est juste impossible pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est pas la faute aux retraités, c'est pas la faute à la croissance, c'est la faute à toutes les taxes qu'il y a à droite à gauche. Si aujourd'hui, avec un salaire, on n'arrive plus à vivre, qu'on est obligé de dormir dans une voiture parce qu'on travaille, c'est pas la faute aux retraités. Et là, on est en train de tout mélanger. C'est-à-dire que les retraités épargnent, donc c'est leur faute s'il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, c'est parce que l'État n'a pas fait le nécessaire depuis des années pour qu'il y ait de la croissance. Ce n'est pas la faute des retraités. Si l'État nous avait mis des usines, si l'État nous avait permis de construire comme il faut, si l'État arrêtait avec toutes ces réglementations qui font que tout est bloqué de partout, on serait en pleine croissance. Mais tout ça, il faut le payer.
Ce que vous dites en creux, c'est que l'absence de confiance dans l'économie, l'avenir du pays, pousse aussi peut-être un maximum de la population à se protéger en épargnant un maximum sans savoir de quoi sera fait les jours qui viennent.
Ben, l'épargne, c'est une habitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez les jeunes, ils voient une Xbox, la nouvelle Xbox va bientôt sortir, ils en ont parlé ce matin, et ils vont l'acheter. Donc, ils vont pas épargner. Les anciennes générations, ils voyaient une Xbox, ils s'en fichaient, en fait. Ils regardaient qu'à la fin du mois, ils
faisaient
plus sur le compte qu'avant. En fait, c'est une mentalité. Aujourd'hui, la mentalité française fait que on se rapproche des Américains. On prend tout à crédit, on s'en fiche, on verra demain. Ça, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Moins on travaille et mieux on se porte. Et les anciens, j'en fais un peu partie, puisque à 56 ans, je peux en faire partie. Les anciens, nous, on est des besogneux. On travaille, on économise. Pourquoi ? Parce que c'est dans notre ADN. Aujourd'hui, l'ADN de la France, c'est plus ça. En plus, avec toutes tout ce qu'on entend aujourd'hui à la radio, les guerres qui s'approchent, les crises, les problèmes de ci, les problèmes de ça, les réglementations qui changent toujours. En fait, il n'y a plus aucune stabilité. Les Français ne sont plus sereins. Si on n'est pas serein, on économise.
Non, mais là où, Patrice, vous avez entièrement raison, c'est d'abord, je le redis, on est libre de faire ce qu'on veut de l'argent qu'on gagne et qu'on a gagné toute sa vie en transpirant. Deux, effectivement, les perspectives en matière de dépendance et de prise en charge dans un EHPAD sont coûteuses. Enfin, elles sont pas rassurantes pour un retraité aujourd'hui. Et les perspectives sont pas rassurantes et je comprends qu'on ne veuille pas être à la charge de ses enfants. Pour les enfants qui pourraient déjà, parce qu'il doit y avoir pas mal d'enfants qui ne pourraient pas payer un EHPAD. Donc oui, moi je comprends très bien qu'on épargne. Je comprends très bien. C'est vrai.
Et en plus, cette épargne, l'État français va le récupérer. Pas tout de suite, mais dans 20-30 ans. Tous ces retraités seront morts. Peut-être moi y compris.
Donc, bah on ne vous le souhaite pas, 20-30 ans, mais Patrice, quand même. Non, mais
restons factuels, restons factuels. On ne vit pas éternellement. Donc, c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut même se poser la question, pourquoi ce genre de statistiques sort-il maintenant?
Ah ben c'est l'INSEE, c'est une stat de l'INSEE. C'est normal, l'INSEE travaille sur la population française, voilà.
Oui, mais,
la
non,
population
mais attendez,
qui épargne le plus en France aujourd'hui, c'est les plus de 65 ans. Oui.
Mais pourquoi ça sort maintenant? Il y a plein de statistiques qui sont faites, sauf qu'on n'en parle pas forcément. Pourquoi ça sort maintenant alors qu'on cherche des milliards? La question est là. Maintenant, qu'est-ce qui va venir après? C'est-à-dire que là, on vient de dire, on tape sur les retraités. Oh, c'est eux les plus riches. Donc, la population française va dire, ah ouais, effectivement, c'est les plus riches. Donc, l'État français va dire, bah écoutez, on va taxer 5% parce que justement, c'est les plus riches. Les Français vont dire, oui, effectivement, taxer les retraités.
Ce qui est vrai aussi, Patrice, et Martial Youl le disait tout à l'heure, c'est que le pouvoir d'achat des retraités s'est amélioré deux fois plus vite ces derniers mois que celui des salariés.
Attention, on va mettre des chiffres en face des pourcentages, parce que c'est toujours facile de dire que ça a augmenté de 20%, de 30%, sur quelle base? C'est toujours pareil, ça a été multiplié par 2, sur quelle base? Si j'ai 1 euro que je multiplie par 2, ça ne fait que 2 euros. Si j'ai 200 euros que je le multiplie par 2, c'est 400 euros.
Mais les chiffres qu'on connaît,
alors,
c'est que...
Alors, donnez-nous les bases,
c'est que les retraites sont indexées sur l'inflation, donc on est sur une hausse de 6% quand les salaires, eux, n'ont progressé que de 3%. C'est-à-dire qu'on a un écart qui se creuse.
Quel est le salaire médian et quelle est la retraite médiane? En fait, prenez les deux chiffres. Vous me dites que effectivement les salaires n'ont augmenté que de 3%, d'accord. Mais quel est le salaire médian en France? Et quelle est la retraite médiane en France? Et qu'elle a augmenté de 5%. Et vous verrez que le delta, il est plus en faveur des travailleurs que des retraités.
Ouais, enfin,
vous voulez faire le calcul? Non, mais
non, mais Patrice, comment dire les choses? Je suis pas convaincu. Enfin, comment dire les choses? Moi, je veux pas dire de mal des retraités en France pour plein de raisons.
Personne veut dire du mal des retraités.
Mais quand on voit ces statistiques, je comprends que certains retraités disent « Mais pourquoi on me dit que je ne consomme pas assez, que j'épargne trop ?» Bon, moi, c'est pas du tout mon sujet. Voilà, j'ai plutôt une grande empathie pour les retraités. Mais la réalité des chiffres est là. Il se trouve que les retraités français sont, dans leur globalité, attention, hein, dans leur globalité, sans doute les plus matériellement heureux de l'Europe entière, et je dirais même du monde. Voilà, y a peu de pays où le retraité moyen, encore une fois, a un niveau de vie comparable au retraité français. Je ne dis pas que c'est rose, je ne dis pas que c'est formidable, je ne dis pas que je rêve d'être un retraité français, mais c'est une réalité. Voilà. Et quand on dit aussi qu'il y a moins de pauvres, de pourcentage de pauvres chez les retraités français que chez les actifs français, c'est vrai. Ça, c'est Patrice, c'est des vérités, ça.
Oui, non, on est d'accord sur ça. On est d'accord. Ça ne change pas le problème que aujourd'hui, les retraités ont besoin de sérénité. Leur sérénité, c'est leur portefeuille. En fait, l'État français n'a pas compris ça encore, ou il l'a très très bien compris, et moi je suis sûr, on en reparlera à l'occasion si vous voulez, mais je suis sûr que l'État français va profiter de ces statistiques pour pouvoir taxer les retraités encore.
Bien. Patrice, on a beaucoup échangé, on va faire rentrer Anne-Marie dans la conversation quand même. Ma chère Anne-Marie, bonjour, ma chère
bonjour,
Anne-Marie.
Bonjour.
Après avoir écouté Patrice, le futur retraité, hein.
Mais moi, il a tout à fait raison, ce monsieur. Oh là 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 là. Oui. Et il s'exprime parfaitement. C'est tout à fait convaincu de ce qu'il dit. Oh là là, oui.
Pour connaître le fond de la pensée d'Anne-Marie, attendez une seconde. On vous reprendra, Anne-Marie. On prendra également Thibault. Thibault qui nous appelle au 3210, qui est juriste et qui nous dit qu'il ne faut pas blâmer les retraités. On l'écoutera dans un instant. Mais tout de suite, Jean-Alphonse vient d'arriver dans le studio. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour Eric et bonjour Céline. Bonjour.
Alors bientôt retraité, Jean-Alphonse. Je vous fais des blagounettes comme ça de temps en temps.
Bon, excellent aujourd'hui, très en forme.
C'est vrai, vraiment, qu'est-ce qu'on se marre. Bonjour Alphonse, sérieux, le programme de l'heure du crime.
Alors, on va rentrer dans la tête d'une meurtrière qui a commis sans doute le pire des crimes. Elle a tué un après l'autre, ses 5 enfants. Ils avaient entre 3 et 14 ans. Elle s'appelle Geneviève Lhermitte. C'est une ancienne prof de français. Ça se passe en Belgique, pas loin de Bruxelles. C'était en 2007. Alors évidemment, on va dire, cette femme, elle est complètement folle. Elle n'a rien à faire dans le bureau du juge. C'est à l'asile qu'elle doit se trouver. Eh bien, c'est une enquête qui va se pencher pencher sur ce cas critique et révéler bien des rebondissements, des surprises, des questions qui auraient pu inciter presque, ou en tout cas alimenter la rage de cette femme, la question va se poser. Et puis pourquoi on l'a laissé faire? Et là vous allez voir, il y a tout un débat autour du psychiatre qui l'a suivi. Est-ce qu'on l'a laissé faire cette femme? Est-ce que le drame pouvait être évité? Sans doute oui. L'affaire Geneviève Lhermitte. L'heure du crime, 14h sur RTL. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Jean-Alphonse Richard. Et tout à l'heure également, nous allons retrouver Anne-Marie et Thibault dans une poignée de secondes, les amis. À tout de suite.
Jusqu'à 14h,
Éric Brunet, Céline Landreau vous donnent la parole sur RTL.
Carrefour.
Quand vous me dites « Ah, ça sent bon l'été !»
Eh bien, je vous réponds qu'avec votre club Carrefour, cagnottez 34% d'économie sur l'ambre solaire Garnier Sensitive Expert Plus SPF 50+, 150 ml, pour adultes ou pour enfants, qui revient à 6,78€ au lieu de 10,28€, soit 3,50€ cagnottés avec votre club Carrefour. Alors rendez-vous jusqu'au 29 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
68,53€ le litre en spray ou brume. Détail sur carrefour.fr.
Là, vous entendez. Mais pas le temps de penser à Leroy Merlin. Dans deux semaines, c'est les vacances. Sauf que là, quand je dis que jusqu'au 1er juillet, le kit salle de bain Natura, meubles de tiroir, effet chaîne, avec vasque et miroir, est à 169€ seulement, là vous vous dites que deux semaines, c'est large.
Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Dimension 80x55 par 45 cm, arrivage limité à 2345 exemplaires.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, je vous ai pris du filet de bœuf français.
Oh super, et c'est une affaire. Vous verrez, il est extra tendre.
Oui, on va se régaler. Je vais le faire rôtir au four.
Comment ça, rôti? On avait dit des grillades.
Vous allez pouvoir faire plaisir à tout le monde, car du 20 au 22 juin chez Leclerc, la caissette d'un kilo de filet de bœuf 3 étoiles origine France à rôtir ou à griller est à 22,50€ seulement. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc.
C'est parti.
Eh ben j'ai fait le tri dans mes bijoux en or. Ouh, je les ai revendus chez Orange Cash. Ouh, et voilà, ça finance les moments de plaisir.
Revendez vos bijoux et profitez pleinement de votre été avec Orange Cash.
Orange Cash achète cash.
Transaction réservée aux majeurs et soumise à réglementation. Paiement par chèque ou virement.
Eh, hey, chez PMU ce week-end, c'est collector. Pour 1€, tu peux jouer un pari tiercé et PMU t'offre un paquet de dadaouettes.
Alors on dit cacahuètes, Eric, hein?
Ford Pro.
Allez, patron, j'y vais.
Attendez.
Oui?
Vous êtes branché, Bénodier.
Ah bon? Vous trouvez?
Mais non.
C'est vrai que je travaille mon style.
Non, le câble, c'est électrique. C'est le nouveau e-transit custom, Bénodier.
D'accord, donc c'est nouveau.
Bah, oui.
Pendant les jours plus productifs Ford Pro, profitez de jusqu'à 4 696€ sur le nouveau e-transit custom 100% électrique avec la prime CEE.
Ford Pro.
Prime CEE en vigueur pour personnes morales éligibles. Voir conditions d'éligibilité sur Ford.fr.
C'est mauvais pour la croissance. Et donc vous êtes nombreux à appeler au 3210. On est avec Anne-Marie. Vous épargnez, vous Anne-Marie, vous vous sentez coupable d'épargner dans ce climat général, Anne-Marie?
J'épargne, mais je ne me sens pas coupable du tout. Parce que disons que je suis aidant pour mon mari.
Oui.
Alors, donc, j'emploie des aides.
Oui.
Alors, à savoir, pour l'instant... Enfin, précédemment, parce que là, mon mari est encore à l'hôpital. Alors, les aides, je l'avais pour la toilette, enfin, pour les douches. Et le restant, je le faisais moi-même, parce que j'ai des problèmes de santé pour rester debout.
Oui.
Alors, je prenais aussi quelqu'un pour le ménage. Et puis aussi, quand j'ai eu une opération de la cataracte, je ne pouvais plus conduire et je faisais ça à l'hôpital Mono.
Oui.
Et dans ce cas-là, je prenais quelqu'un, une association, et le monsieur charmant prenait ma voiture et me conduisait avec ma voiture.
Vous dites, je vous interromps, Anne-Marie. Vous
oui.
êtes en train de me dire que dans votre contexte familial, de santé même, dans votre couple, qui est pas au top, un mari malade et vous-même qui avez eu des moments de maladie, l'épargne, l'argent de côté oui. que vous avez pu mettre, vous a servi eh bien, à payer des choses que la sécurité sociale ne paie pas, c'est-à-dire des aides par-ci, des aides
oui.
par-là. C'est ça, en gros,
oui.
que vous dites.
Et oui, et d'autre part, je pense à mes petits-enfants. Alors donc, j'ai aidé l'aîné, parce que ma fille a 3 enfants, hein, dont des jumelles. Alors l'aîné, bon, n'a pas, enfin, il ne désirait pas trop faire de longues études. Mais enfin, il a quand même fait un bac pro. Et là, il travaille à Oléron. Et dans des conditions vraiment qui lui conviennent, c'est merveilleux pour lui. Hein. Et je vais vous dire le problème à Oléron. Quand il a eu cette demande-là, il était en Dordogne, mais la Dordogne lui convenait pas au point de vue, disons, climat, c'était un peu triste, malgré qu'il soit en colocation. Donc, il est allé à Oléron.
Mais je sais ce que vous allez me dire. À Oléron, quand on a un premier emploi, pour se loger, ça coûte très cher, c'est ça?
Écoutez, vous savez pas ce qu'on a fait. Toute notre vie, on a économisé pour avoir un camping-car de façon à ne pas aller au restaurant parce que mon mari n'aime pas ça. Et disons que on faisait on a fait la France tranquillement. Et je vais vous dire, donc on l'a aidé parce que comme il n'y avait pas le camping d'ouvert, eh bien il a fallu qu'on lui porte le camping-car pour qu'il loge dedans. Sinon, il perdait son emploi. Il n'avait pas son emploi alors qu'il avait un CDI qui l'attendait.
Donc, vous dites, nos économies, elles servent aussi à ça?
À ça, bien sûr, à l'aider. Et là, actuellement, eh ben, écoutez, il a acheté, avec notre aide, l'appartement, un petit appartement. Mais là-bas, ça, faut le dire, dans les régions touristiques, c'est très bien, Airbnb, tout ça, parfait, hein. Mais les gens qui travaillent à Oléron, la plupart du temps, ne peuvent plus se loger.
Imaginez, moi, je pense toujours à la jeune fille, par exemple, qui est serveuse dans un café à Saint-Tropez, par exemple. Comment faire?
Comment faire, voilà. Alors donc, ou bien elle fait deux travails en un, c'est-à-dire qu'elle travaille la nuit ou des choses comme ça, la pauvre, ou bien elle se lève à 4 heures du matin pour faire des différentes occupations, souvent du ménage, malheureusement. Et bien, notre petit-fils, pour arriver, ben donnant dans la vie, on donne pas tout gratuit. Et il a fallu que à l'intérieur... qui décape tout parce que c'était du crépi.
À l'intérieur de l'appartement du petit studio que vous lui avez acheté.
Qui se paye. On lui a donné une part. Et je peux vous assurer, il y a été de ses mains.
C'est formidable. Vous avez de la chance d'avoir un petit-fils qui est travailleur. Et je trouve formidable d'aider... Un gamin quand il est en réponse, quand il est travailleur, parce que c'est pas de l'argent gaspillé.
Depuis l'âge de 15 ans, il ramassait les fruits.
C'est quoi son prénom, Anne-Marie, à votre petit-fils?
Cyprien.
C'est
celui qu'on a, c'est l'aîné. Et il a montré la route à ses sœurs, qui sont jumelles.
Merci
et
Anne-Marie.
Et là, on les embrasse tous les trois. Merci Anne-Marie pour votre témoignage.
J'étais ému, Anne-Marie, mais c'est normal. Une vie de labeur, voilà, c'est l'aboutissement maintenant. C'est cet argent qu'on a économisé, il faut qu'il serve. Et elle ne le garde pas bêtement dans des coffres forts, Anne-Marie, son argent qu'elle a économisé toute sa vie. On l'a compris.
Et on accueille Bernard maintenant. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bernard, vous souhaitiez réagir vous aussi et entrer dans ce débat, on vous écoute.
Encore une fois, les retraités sont montrés du doigt. On prépare l'opinion publique à la prochaine réforme qui va taper sur les retraités. Alors forcément, les retraités économisent, ils économisent un peu. Pourquoi? Parce qu'il faut penser au devenir, il faut penser à ne pas laisser les dettes sur les enfants. Moi, si j'ai des travaux à faire chez moi, il faut bien que je paye cash, parce que je n'aurai plus de crédit. Moi, je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, je suis allé dans un garage. J'ai dit, mais ma voiture vieillit maintenant. Si je veux la changer, j'aurai plus de crédit. On m'a dit, mais si, monsieur, vous aurez un crédit. Ah bon? Mais vous n'aurez pas d'assurance. Ah, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, monsieur, que si vous privez le monde d'un être beau, fort, intelligent et modeste, c'est moi, le restant à payer, ce sera pour vos descendants. Donc, il faut bien prévoir tout ça. Donc, moi, il faut donc faire des économies. On se prive de certaines choses quand on fait des économies. C'est sûr qu'on ne fait pas tourner, l'économie immédiate, mais c'est une poire pour la soif. C'est pour demain, c'est pour préserver un peu ses descendants.
Rien ne m'agace plus, Bernard, que ceux qui jugent. Ah ben, t'as de la chance, t'as de l'argent de côté. Mais oui, mais t'as de l'argent de côté, il est pas arrivé de côté comme ça. Il y a des gens qui ont fait le choix dans leur vie, je sais pas, peut-être de ne pas acheter une voiture, de ne pas partir en vacances, et voilà, ou faire des économies et de mettre de l'argent de côté. Puis il y en a d'autres qui ont été un peu moins fourmis et qui ont pas trop d'argent de côté. Mais ça, c'est la responsabilité et les choix de chacun. Bernard, vous avez tout à fait raison. Pourquoi quand vous épargnez, c'est dans quel but, c'est pour quoi faire en ce qui vous concerne?
Ben écoutez, moi j'ai un certain âge, pour pas dire un âge certain, c'est pour faire face aux dépenses imprévues. Vous voyez, je peux avoir besoin de changer une fenêtre, je peux avoir besoin de faire réparer mon toit. Je vous dis, moi j'ai ma voiture qui est vieillie, un jour, moi je veux pas rester cloîtré chez moi, hein, je veux pas rester dans mon fauteuil 24 heures sur 24, donc je serais bien obligé de faire quelque chose. Et donc, il faut que je prévoie ça. Moi, je peux pas appeler mes enfants et mes petits-enfants en disant « Oh, là, papy a besoin d'argent, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Non, non, moi, je veux me débrouiller par moi-même et je ne veux surtout pas laisser de dette à ceux qui vont me suivre derrière. Bon, en plus, moi, quand je vais partir, il va bien falloir payer ma caisse. Hein.
Vous êtes le deuxième depuis 13 heures là, à parler de ce sujet, justement, des obsèques.
Oui, parce que finalement ça coûte. Hein.
Ouais, vous voudriez que les choses soient réglées avant votre disparition, quoi.
Oh ben, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà réglées d'avance parce que malheureusement j'ai perdu mon épouse. Je dirais qu'il y a plus grand chose à régler derrière, mais moi je veux pas laisser des dettes derrière moi et je veux surtout pas que mes enfants soient dans l'ennui. Et des problèmes notamment financiers à cause de moi. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui encore, je me prive d'un certain nombre de choses. Je pourrais partir en vacances, je ne le fais pas. Je pourrais partir en croisière, je ne le fais pas.
C'est des choix et des sacrifices, ça ne vient pas de nulle
part. Voilà. Donc, et alors là, disons, on a l'air de jeter la pierre aux gens qui économisent. Ben non, on économise parce que on prévoit ce qui peut arriver demain. Et si je vis jusqu'à 100 ans...
Non, vous le souhaitez, Bernard.
Tout le monde me le souhaite. Hein. C'est formidable. Ça sera pour moi l'occasion de passer à la télé.
Exactement. Merci, ou à la radio. Merci beaucoup, Bernard, pour votre appel. Je vous propose qu'on termine cette conversation avec Thibaut. Bonjour, Thibaut.
Bonjour.
Et bienvenue sur l'antenne d'RTL.
Merci.
Vous avez une voix un peu plus jeune que nos auditeurs précédents. Vous n'êtes pas retraité, Thibaut.
Il n'a pas mué encore. Il a 13 ans, 12 ans.
Non, j'ai quand même 35 ans. C'est vrai que je suis un actif, jeune parent en plus. Moi, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi les actifs ne peuvent pas épargner plus? Qu'est-ce qui se passe dans la classe active pour qu'elle ne puisse pas mettre plus de côté? Donc, est-ce que ça vient d'une fiscalité un petit peu trop lourde? Est-ce que ça vient plutôt d'une attitude consumériste de ma génération?
C'est ce que j'allais vous demander. Vous avez entendu tout à l'heure ces retraités qui disaient « Nous, on vit pas comme les jeunes. Ils ont tendance à prendre un petit peu la mode du consumérisme américain, de vouloir tout acheter tout le temps, alors que nous, c'était pas notre cas. » Vous vous reconnaissez dans ce tableau qu'on dresse des jeunes actifs?
Alors moi, pas du tout. Pas du tout, mais en revanche, je trouve qu'on nous incite fortement à consommer malgré tout. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a mes parents qui changeaient de voiture peut-être tous les 15 ans, et nous, on nous incite par une voiture électrique fortement à changer tous les 5 ans, 6 ans. Lorsqu'on achetait une maison à l'époque, eh bien, on achetait une maison et on prenait le temps de faire les travaux. Maintenant, il faut que dans l'année, il faut qu'il y ait tout aux normes, et les normes changent tous les 5 ans.
Alors, il y a les habitudes de consommation qui ont changé d'une génération à l'autre. Je vous écoute, hein, Thibault. Il y a aussi, moi, c'est ma certitude, c'est que c'est les charges qui pèsent sur la société française et sur l'emploi. D'une certaine façon, ce qu'on n'épargne pas, c'est aussi un peu le modèle social français. Ce qui est formidable, le modèle social français, je suis pas en train de le discréditer, mais c'est vrai qu'il est coûteux, donc c'est peut-être d'épargne en moins pour certains. Non.
Moi, je trouve en tant qu'actif qu'on paye parfois pour la génération au-dessus, et là, c'est normal qu'on paye pour la génération qui est en dessous. Mais pour nous, en tout cas, moi, ma crainte, c'est demain, qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Comment je vais la financer? Et quand je serai grand-père, est-ce que je vais pouvoir aider mes enfants et mes petits-enfants comme les retraités le font aujourd'hui.
Bah ça, on n'a pas la réponse, Thibault, je suis désolée. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, on va changer de sujet, Eric. Hein.
Ouais, qu'est-ce que c'est que l'hyperconnexion ? C'est recevoir des mails toute la journée, c'est ça ?
C'est par exemple ça, et surtout en recevoir à n'importe quelle heure. Hein. C'est les chiffres de cette étude signée Microsoft dont on vous parlait dans le journal de 12h30. 40% des employés consultent leur mail avant 6h du matin. Un tiers le fait encore après 22h. Ou quand les horaires de travail ne comptent plus quand il s'agit de répondre aux messages qui nous proviennent du bureau.
Après 22 heures dans le lit, c'est pas très romantique. Qu'est-ce que tu fais, chérie ? Je regarde les mails du bureau. A tout de suite, on en parle.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, je vous ai pris du filet de bœuf français.
Ah, super ! Et c'est une affaire. Vous verrez, il est extra tendre.
Ouais, on va se régaler. Je vais le faire rôtir au four.
Comment ça, rôti ? On avait dit des grillades.
Vous allez pouvoir faire plaisir à tout le monde, car du 20 au 22 juin chez Leclerc, la caissette d'un kilo de filet de bœuf 3 étoiles origine France à rôtir ou à griller est à 22,50€ seulement. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Vous n'êtes pas encore totalement prêt pour le 100% électrique ? Découvrez Kia Niro Hybrid, le crossover familial et économe en carburant. Et jusqu'au 30 juin, profitez-en immédiatement à partir de 297€ par mois sans apport.
Kia Niro Motion Hybrid hors option. LLD 49 mois, 40 000 km. 49 loyers de 297€ TTC, hors assurance et prestations facultatives. Offre aux particuliers si accord Kia Finance. Garantie 7 ans. Conditions sur kia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
Venez découvrir Je n'aime pas le classique, mais avec Alex Vizorek, j'aime bien à la scène musicale.
Oui, et Alex Vizorek, c'est moi. Je vais vous faire aimer la musique classique. Mais rassurez-vous, à ma façon, avec humour, un soupçon de pédagogie et surtout des musiciens incroyables. On va rire, on va apprendre, on va écouter du très bon son classique. Et même si vous pensez que vous n'aimez pas ça, celui-là, je vous promets, vous aimerez.
Je n'aime pas le classique, mais avec Alex Vizorek, j'aime bien le 20 juin à la scène musicale avec RTL.
RTL.
À découvrir dans le nouvel épisode des Salauds de l'Histoire.
Les Salauds de l'Histoire, je vous fais découvrir cette semaine Ranavalona Ière. C'est une reine de Madagascar. Quel personnage, alors, d'une cruauté terrible. Ranavalona Ière a exercé son pouvoir d'une main de fer sur Madagascar. Pardon, et quand je dis du main de fer, c'est presque trop gentil. Son règne a été marqué par la violence, les purges, l'isolement, une cruauté absolument extrême vis-à-vis de son propre peuple. Mais c'est une reine intéressante aussi parce que au milieu du 19e siècle, elle va avoir un discours anticolonialiste contre les Britanniques et les Français qui montre une indépendance politique d'esprit intéressante. Mais malheureusement, à côté de ça, il y a une espèce de violence, de déchaînement de la violence vis-à-vis de son propre peuple qui fait qu'elle est pas sauvable quoi aux yeux de l'histoire. Mais elle est intéressante parce qu'elle est peu connue. Ranavalona Ière. Écoutez les Salauds de l'Histoire sur la cruelle et la diabolique reine de Madagascar. Un épisode que vous pouvez écouter dès à présent sur le site d'RTL.fr.
Les Salauds de l'Histoire.
Les auditeurs ont la parole.
Éric Brunet et Céline Landreau sur RTL.
Les mails, c'est un tiers de mon temps. Je lis des mails, mais qui ne me serviront même pas pour mon travail. C'est horrible. Sans compter les appels téléphoniques qui ne servent à rien non plus. Et c'est tout le temps, toute la journée, de toute manière. Hein. Et à des heures, pas possible. J'ai des collaborateurs, des managers, qui reçoivent des messages de personnel à 2h du matin pour leur dire « Bon, ben voilà, je serai absent cet après-midi. » Les gens ne comprennent plus maintenant. On a aussi une vie privée. Et qu'en dehors du travail, nous avons notre vie. Et effectivement, il faut que cela s'arrête.
Ou comment la vie de bureau est parfois devenue un cauchemar pour de nombreux salariés. C'est le résultat d'une étude de Microsoft qui montre que les employés sont interrompus toutes les 2 minutes en moyenne par des mails, des notifications, des messages sur des boucles de conversation type WhatsApp. Étude qui montre aussi que chaque jour, 50 messages sont envoyés aux salariés en dehors de leurs heures de travail. Et je vous propose d'en parler avec Julien qui nous a appelé au 3210. Bonjour Julien.
Oui, bonjour. Merci de me prendre à l'antenne.
Vous faites partie de ces salariés assaillis de messages à toute heure du jour et de la nuit, si j'ose dire ?
Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, je travaille dans un milieu de l'audiovisuel et malheureusement, aujourd'hui, si on n'est pas réactif, il y a tellement d'acteurs sur le marché que ça devient compliqué. Quoi. Les clients peuvent très vite aller voir la concurrence. Donc du coup, ouais, c'est un métier qui est pas facile et effectivement, on est pas mal assailli de mails, d'appels, de choses comme ça. Mmh. Bon, ça fait aussi partie du job.
Et le jeu, c'est de surtout pas la jouer. Je suis désolé, je réponds pas, je suis en famille, hein, parce que si on fait ça dans votre profession, on est dégagé tout de suite.
Mmh. Bah, bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc effectivement, ouais, ça fait partie du jeu. La réactivité aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un point clé. Donc effectivement, on va recevoir des SMS, des mails, des appels.
À quelle heure ? À quelle heure ?
Ah bah ça peut aller effectivement, comme vous le disiez. De 6h du matin jusqu'à 22h, 23h, même plus tard, puisque les clients vont être, par exemple, sur les chantiers la journée, et puis ils vont après entamer, entre guillemets, leur deuxième journée, à être au bureau, et puis c'est là où ils vont nous envoyer des messages.
Et vous parlez de la pression des clients, est-ce que c'est une pression aussi de la part, je sais pas, de vos employeurs, il faut que tu répondes, tu te dois d'être joignable tout le temps ?
Non, pas du tout, mais c'est plutôt, je dirais, plutôt une conscience professionnelle. Que j'ai, puisque sinon, comme je vous disais, le client peut aller voir ailleurs. Et puis des sociétés dans ce domaine-là, il y en a quand même pas mal en France.
Vous mettez vous-même la pression. Je peux vous demander quel type de métier vous faites ? Qu'est-ce que vous faites, Julien ?
Je suis dans l'audiovisuel. Je suis technico-commercial dans l'audiovisuel.
D'accord. Technico-commercial dans l'audiovisuel, d'accord.
Et, voilà. Et vous disiez, c'est de 6h du matin à parfois 22-23h le soir.
Ça crée des tensions
à la maison ?
Non, pas spécialement, parce que ma femme aussi est dans un métier où elle a besoin d'avoir de la réactivité. Donc non, mais on va dire que j'entame une deuxième journée à partir du moment où les enfants sont couchés, quoi.
Mmh. Ouais. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, dans un couple jeune, on comprend ça, quoi. On comprend ça.
Oui, bien sûr, sans problème. Je pense que mes parents n'avaient pas du tout cette vision-là et n'auraient pas fait la même chose que nous aujourd'hui. Parce que je pense que de toute manière, les temps ont changé, que ce soit avec les réseaux sociaux, avec les outils qu'on a maintenant, par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a 20 ou 30 ans, très clairement.
À l'époque, c'était appelé sur le fixe de la maison pour joindre un salarié. Aujourd'hui, vous avez votre portable à la main et vous pouvez tout faire depuis votre mobile.
Et Julien, il y a le coup de fil à 22h45 qui est une nouvelle opportunité professionnelle, mais il y a aussi le coup de fil à 22h45 qui est une galère. Alors là, c'est plus le même. Alors ça fout en l'air l'ambiance de la famille, la soirée, tout.
Ah bah bien sûr, si un chantier se déroule mal ou je sais pas, un produit peut être en panne, c'est des choses qui peuvent arriver. Forcément, le client peut être mécontent. Et oui, là, effectivement, là, on n'a plus la même énergie, quoi.
Ouais. C'est sûr. Ouais. 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 Merci Julien. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Voilà, très intéressant. Vous avez quel âge, Julien ? Tiens, je peux vous poser la question ?
J'ai 39 ans.
39 ans, voilà. Très bien. Compris.
Et on va continuer cette conversation avec Philippe qui nous a appelé également. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, je crois que vous êtes chef d'entreprise, que vous avez donc des salariés. Est-ce que vous faites attention à ces choses-là, à leur laisser un espace, j'allais dire, de liberté en dehors des heures de travail ?
Absolument. Et ça se fait. Moi, c'est une petite entreprise. On est en tout 7 avec moi. Mm-hmm. Et ça se fait naturellement, j'allais dire. Les mails, j'en envoie pas. C'est une entreprise pas familiale, mais j'ai la chance d'avoir des personnes, notamment mon responsable technique, qui est là depuis quasiment l'origine. Donc on se connaît très très bien. Et quand il y a vraiment un gros souci chez un client ou quoi que ce soit, je vais même pas envoyer un mail, je vais l'appeler et je sais qu'il va répondre parce qu'il va savoir que c'est pas...
C'est urgent, quoi.
C'est nécessaire pour l'entreprise. Voilà, c'est nécessaire pour l'entreprise. Et la règle d'or, moi, que j'ai mis en place, c'est que pour les clients, il y a des contrats de maintenance, etc., ils ont un numéro de téléphone à appeler et c'est le mien. En cas d'extrême urgence, même on a des clients qui bossent le week-end, pour justement que je filtre. Alors soit je règle le problème si je peux le régler, soit si c'est vraiment un problème très urgent et très compliqué, je vais me permettre, et c'est implicite, enfin je sais pas comment dire, mais c'est vraiment tout à fait naturel.
Et vos salariés savent que vous aurez tout fait avant pour éviter de les déranger ?
Ah ouais, complètement. Oui, mais je vous dis, on se voit tous les jours, on parle tous les jours. Enfin, je comprends que dans les grosses entreprises, ça puisse être un sujet. Parce que là, on se connaît, tout le monde se connaît pas forcément, mais là, je vous dis, à 7, on se connaît tous et ça se passe tout à fait naturellement et de manière intelligente.
Ouais.
Et même vis-à-vis de nos clients, on les voit dans les signatures mail, on a quelques clients qu'on appelle des grands comptes, où là, il va être noté effectivement les horaires de mail, etc. Mais sinon, la plupart
de nos clients... Oui, ce petit message d'avertissement en bas des mails, disons qu'on n'est pas tenu de répondre en dehors des heures de travail ou pendant les temps de repos.
Nos clients qui sont des petite entreprise, il n'y a même pas ça, quoi. Ça se fait en bonne intelligence. Et moi, c'est comme ça que j'aime travailler en plus. Donc, c'est parfait.
Merci Philippe, continuez à nous appeler au 3210 sur l'hyperconnexion, c'est un mal, hein, un mal de notre époque, et parfois ça peut psychologiquement quand même, soit on est dans cet univers-là et on l'accepte comme si c'était, voilà, comme si c'était naturel depuis toujours, soit ben on est très perturbé au niveau de sa vie personnelle et familiale. À tout de suite.
Céline Landreau et Éric Brunet,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Partir en livre, le festival du livre jeunesse organisé par le Centre National du Livre revient du 18 juin au 20 juillet. Partout en France, des milliers d'événements gratuits célébreront le thème « Les animaux et nous ». Lecture à voix haute, ateliers, rencontres d'auteurs, jeux littéraires rendront hommage aux petites et grandes bêtes de nos contes, albums et romans. Programme sur partirenlivre.fr.
Renault Car Service propose le bilan confort et sécurité avec 60 points de contrôle à 45 euros. 60 points de contrôle, c'est beaucoup, non? De l'usure des pneus à la vérification des systèmes électroniques, le tout réalisé par les experts Renault, oui, c'est beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut pour partir serein en vacances. Une fois de plus, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault?
Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Offre à particulier pour les véhicules thermiques Renault et Dacia dans le réseau participant. Conditions sur Renault.fr. Source l'Automobile Magazine 2024.
Oh, RTL présente Sting sur scène dans The Last Cheer. Une production musicale spectaculaire pour la première fois en France à partir du 18 février 2026 à la scène musicale à Paris. Infos et réservations en point de vente habituel. The Last Chip, écrit et composé par Sting. Un événement France Télévisions et RTL.
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à ma famille. J'ai effacé notre cassette de mariage en enregistrant du foot. Ce n'est pas le chien qui a cassé le vase, c'est mon coude. Et quand je dis que j'aime les réunions de famille, c'est surtout pour le dessert.
On peut ne pas tout dire à ses proches. En revanche, leur dire qu'on est donneur d'organes, c'est important. Le don d'organes sauve des vies. Alors rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé.
13h, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Éric Brunet et Céline Landreau.
On parle de l'hyperconnexion des salariés français qui reçoivent parfois des centaines de mails, de notifications, de SMS. Ça peut commencer à 5-6 heures du matin, ça peut finir après minuit, voilà. C'est le bureau qui est là, dans la maison, dans le smartphone. Cédric est avec nous. Bonjour mon cher Cédric.
Bonjour.
Bonjour Céline et bonjour Éric.
Vous êtes, vous êtes senti submergé vous aussi de temps en temps par tout ça ?
Submergé, c'est pas le mot, parce que je me sens pas submergé. Enfin, vous avez une phrase assez juste, il y en a qui s'en accommodent. Moi, je suis dans l'hyper activité absolue. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, je suis en repos, je vois les mails, je lis les mails, je reçois des messages dans les groupes professionnels. Alors, je suis cadre dans la grande distribution. Hein.
Allez, les fameuses boucles WhatsApp.
Exactement. Au moins, j'aurais plus tendance à dire que c'est ça qui me pourrit la vie plutôt que les mails en tant que tels. Ouais. Parce que là, je suis en repos, je vois le mail, je vais pas y répondre parce que à contrario, j'ai ma société qui veut pas qu'on réponde en réalité. Si il nous appelle ce jour-là, un jour de repos, c'est que vraiment c'est la guerre et qu'il y a un gros problème. En revanche, mes collaborateurs, effectivement, eux m'appellent, y compris le dimanche, y compris m'envoyer des messages à 4h moins quart du matin. Voilà, ça c'est en même temps c'est le travail. J'ai envie de dire, on sait quand on s'engage dans un travail, il y a une certaine responsabilité et quand on prend des responsabilités, il y a des contraintes. Moi, ce qui me pourrit vraiment, c'est les groupes, quoi. C'est les groupes. Parce que là, n'importe qui, à n'importe quand, vit des messages tout le temps. Et ce qui est assez pervers dans ce système de dire, par exemple, vous êtes en repos, vous répondez pas, etc., c'est que si on loupe un message et que le lendemain, on retourne au travail, mais qu'on va dire, bah, moi, j'ai pas vu ce message. Pourquoi tu l'as pas vu? Bah, parce que j'étais en repos. Ouais, mais t'es censé le savoir. Voilà. Et il y a ce côté un peu pervers. Donc, en réalité.
L'injonction contradictoire. Vous répondez pas ça. Parce que sinon on va avoir des problèmes, mais vous êtes tenu de savoir tout ce qui se passe même quand vous n'êtes pas là.
Exactement, parce que c'est notre rôle de responsable. C'est-à-dire, on est censé être au courant de tout, ou presque en tout cas.
Ouais. Et puis quand on est dans la fonction, dans le métier, ne pas détenir une information importante, stratégique, capitale, professionnelle, c'est quelque part sortir un petit peu du jeu. Alors une fois, ça vous est pardonné, deux fois aussi, puis au bout d'un moment, quand on rate trop d'infos, eh ben on se dit, le mec, il est plus dans le coup, quoi.
voilà, il est pas compétitif, etc. Et puis quand on est cadre, même si on n'a pas de mal à retrouver du travail, on n'a pas de mal à nous l'enlever non plus. Hein, on va pas se mentir. Mais voilà, moi je me plains pas. Hein, franchement, je me plains pas. Déjà, j'ai un travail. Il y a des gens qui ont pas de travail. Je suis pas là pour me plaindre. Mais on travaille avec, avec cette hyperactivité, hein, cette hyperconnexion. Ça fait presque partie du travail, j'ai envie de dire. Donc, moi je m'y accommode. Après, les seuls moments vraiment où je déconnecte total, et d'ailleurs ma société, encore une fois, mes supérieurs ils en sont conscients de tout ça, parce que quand on est en vacances par exemple, ils nous enlèvent et des groupes et des mails.
Merci Cédric pour ce témoignage. Avec on va plaisir. Accueillir Sébastien peut-être pour terminer l'émission. Bonjour Sébastien.
Bonjour. Bonjour Céline, bonjour Eric, bonjour à tous les deux.
Je crois que vous rejoignez Cédric sur ce sentiment d'hypocrisie sur ces messages, par exemple, en bas des mails qui vous expliquent que vous n'êtes pas tenu de lire, de répondre en dehors des heures de travail, mais c'est quand même mieux si vous le faites.
Alors moi je vais vous dire, à titre personnel, là, pour moi, sur tout mon parcours professionnel, effectivement, j'ai toujours senti une forme d'hypocrisie. Là par contre, dans le métier que je fais, et même celui d'avant, j'ai toujours pu déconnecter, j'ai jamais eu de problème, et honnêtement, ma société actuelle pour laquelle je travaille ne m'embête pas. Par contre, ma conjointe, encore une fois, travaille, elle exploitante dans le transport, pas de problème non plus. Elle, c'est un peu plus particulier, et elle ne s'en plaint pas non plus, mais elle doit gérer des plannings de conducteurs et gérer des astreintes. Et là, effectivement, les astreintes, ça peut être un conducteur qui est malade, elle doit gérer une astreinte à 4h du matin ou autre, elle s'isole dans le bureau. Mais effectivement, comme le disait l'auditeur précédent, quand on aime son travail, eh bien, faut savoir des fois s'impliquer et s'adapter à la situation.
Et parfois, elle bosse à 4h du matin.
C'est pas parfois, c'est souvent, elle prend son bureau, elle se connecte et elle doit gérer des plannings de conducteurs parce que c'est normal, elle bosse pour une société de transport de bus et c'est tout à fait logique, effectivement, qu'elle puisse anticiper ce genre de problème. Ouais, donc elle s'adapte à la situation, bon, moi je comprends, je me suis mis avec elle, ça ne nuit pas à notre couple parce que voilà, on a un bureau chez nous et tout, mais effectivement je comprends que dans certains métiers on doit s'adapter aux situations et faire en sorte d'être disponible. Après tout dépend le contexte, tout dépend si effectivement il y a des sociétés qui sont anxiogènes vis-à-vis des salariés, qui en abusent ou pas.
Par exemple, quand elle bosse, votre épouse, à 4h du matin, ça peut être une chose qui n'est pas prévue du tout, quoi, parce qu'il y a eu un coup de fil à 23h qui dit il y a une urgence.
Bien sûr, ça peut être un coup de fil, un mail, ça peut être plein de choses, elle s'adapte et elle est consciencieuse dans son travail et je respecte ça, je l'ai connue comme ça et je savais très bien que le contrat, si un jour on était amené à vivre ensemble et se marier, c'était de l'accepter. Et je comprends. Après, ça peut être compliqué peut-être dans d'autres couples, mais en tout cas, moi, je l'assimile et je le comprends.
Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. C'est une nouvelle donne de l'équation professionnelle, Céline. Maintenant, ça va être comme ça dans pratiquement tous les métiers, j'imagine. Voilà, les amis, il est 13h59. Jean-Alphonse Richard est là. Mais pour